partout au Québec. Partout au Québec. Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Fabi la nuit.
Voici Jacques Fabi.
Bien, alors nous sommes de retour avec Jean-François Gay, c'est la chronique prendre la route. Jean-François, avant de parler des essais routiers, t'as vu, je crois, comme une conférence de presse virtuelle, le nouveau Kia Sorento, je pense un véhicule qui se vend assez bien au Québec. T'as vu des images donc de cette nouvelle Kia Sorento 2021. Alors, as-tu été impressionné? Est-ce que c'est une... C'est un changement radical. Alors, tu peux nous en parler un peu?
Ouais, ben c'est ça. C'est pas un changement radical, Jacques. C'est plutôt une évolution.
Oui.
Puis là, ben c'est un lancement virtuel. Parce que ça, c'est la nouvelle tendance. Il fait ouais. L'époque, hein, à ouais. cause de la COVID. Avant, on faisait des voyages un peu partout dans le monde. Au cours des dernières années, je voyageais beaucoup moins qu'à une certaine époque. Et puis, là, c'est virtuel. Donc, moi, je trouve ça plus pratique. C'est sûr qu'on peut pas conduire le véhicule comme dans un voyage de presse traditionnel, mais à un moment ou l'autre, le véhicule va être sur la flotte de presse à Montréal, puis on pourra l'essayer. Mmh. Concernant le Sorento, ben, c'est sûr qu'au niveau du design, ça ressemble au modèle actuel. Par contre, ben, ils ont retouché la calandre à l'avant, les phares en arrière. Il y a un nouveau moteur, un nouveau 4 cylindres 2.5 turbo de 281 chevaux. Je vous dirais que c'est passablement intéressant. Il y a aussi un nouveau groupe motopropulseur turbo hybride, donc c'est une motorisation hybride. Ça va permettre de diminuer la consommation de carburant. Il va avoir une version aussi X-Line pour des capacités tout-terrain. Ça veut dire que la garde au sol va être peut-être environ 2 cm, 2 cm et demi plus haute, ou un pas si vous préférez, là, que le modèle de base. Puis c'est une nouvelle tendance, parce que tantôt, je vais vous parler du GMC Acadia AT4. Puis c'est une version, là, justement, que GM a concoctée de l'Acadia avec un look, une personnalité, là, je vous dirais, hors route. Je sais pas si ça peut se dire, je peux m'exprimer ainsi. Donc,
c'est toi qui sais.
Kia, c'est oui. ça. Kia ont vraiment le vent dans les voiles, Jacques.
Mm-hmm.
Je te dirais que c'est pas une transformation drastique, mais c'est un modèle qui a évolué. Puis, je pense Kia est dans la bonne direction.
On a l'impression que Kia et Hyundai, hein, c'est. Est-ce que ça appartient aux mêmes? C'est pas les mêmes.
Hein? Ben Hyundai a acquis Kia. Il y avait eu à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y avait eu un petit scandale financier en Corée avec Kia.
Mm-hmm.
Puis Hyundai finalement a récupéré la marque là, pour pas que la marque disparaisse. Puis depuis ce temps-là, ben ça fait quand même longtemps de ça.
Ouais.
Et puis c'est une compagnie qui a changé drastiquement là. Si on regarde là, l'évolution de toutes les marques au cours des 25 dernières années, ou on pourrait dire des 10 dernières années aussi, moi je vous dirais que Kia c'est la marque qui a le plus évolué. C'est le plus transformé là, au cours des dernières années.
Mmh, parfait. Ouais. Bien, alors au niveau des essais routiers, effectivement, tu voulais nous parler de la GMC Acadia AT4 version hors-route.
Oui, version AT4, maintenant, c'est une nouvelle dénomination, si on veut un nouveau nom, pour les versions tout-terrain de GMC. On sait que GMC, c'est une marque qui est vraiment spécialisée dans les camions. Il n'y a pas beaucoup de marques sur le marché comme ça. Il y a Jeep, il y a Land Rover.
Ben, il y a Ford quand même.
Oui, mais Ford, ils ont quand même...
Ford ne fait que ça, à peu près.
Ben, il y a encore la Mustang qui est fabriquée. Puis là, ben, il y a la Fusion qui prend sa retraite pour 2021. Mais GMC, depuis le début de la marque, ça a toujours été une marque qui était dédiée aux camions. Puis par rapport aux camions Chevrolet, ben, il y a toujours une petite touche de luxe un petit peu plus. Il y a toujours un petit peu plus de chrome. Ça a toujours été un peu comme à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Ford Mercury. Mercury était toujours un petit peu plus luxueux, présentation différente. Donc, GMC Chevrolet, ça a toujours été ça. Même si Chevrolet, au cours des dernières années, les modèles sont plus luxueux et se rapprochent davantage de GMC. C'est pour ça que GMC a les versions Denali. Denali, c'est vraiment des versions qui se rapprochent, on pourrait dire, de Cadillac, même si Cadillac, c'est devenu plus sportif qui fait une certaine époque où c'était vraiment axé sur le luxe. Mais bon, vous avez la version AT4, puis au-dessus de AT4, vous avez Denali. Mais AT4, c'est vraiment une version, je vous dirais, c'est pas un vrai 4x4. Là. On s'entend là que l'Acadia, c'est pas transformé en Jeep Grand Cherokee ou en Toyota 4Runner le jour au lendemain à cause de cette version-là. Par contre, je vous dirais au niveau de l'apparence, c'est un véhicule qui a un aspect un petit peu plus robuste. Il y a moins de chrome, il y a plus la calandre est noire, les roues sont noires. Vous avez aussi des petites bandes en plastique autour du véhicule de couleur noire pour lui donner un petit côté un petit peu plus agressif.
Oui, excuse-moi, je sais pas, j'étais peut-être un peu distrait. J'étais justement en train d'ouvrir ma page Facebook, puis là, je viens de voir la photo. Je sais pas si tu l'as souligné, mais je trouve que ça ressemble dangereusement à la Jeep Grand Cherokee. Enfin, il y a des tendances, ça ressemble un peu à ça.
Ben, à un moment donné, moi, je vous dirais, c'est ça le danger avec les VUS. À un moment donné, ils se ressemblent tous. Hein?
Ah oui, c'est vrai.
Par rapport aux voitures, moi, je dirais que les voitures, peut-être au niveau du design, les stylistes ont peut-être un peu plus de liberté pour concocter des designs plus personnalisés. Mais les camions, à un moment donné...
Alors, pourquoi payer trop cher? Elles se ressemblent tous.
Effectivement. Par contre, je vous dirais que pourquoi acheter un GMC à Acadia? Ben, si on regarde, si quelqu'un qui rentre chez un concessionnaire GM, le General Motors, vous allez avoir le choix entre le Buick Enclave, le Chevrolet Traverse et le GMC Acadia. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles, à une certaine époque, il y avait aussi le Saturn Outlook. Et on s'entend que c'est mort de sa belle mort en 2000...
Saturn, oui.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Non, c'est ça.
Hein? Bon, puis l'Acadia, par rapport aux traverses puis à l'enclave, il est un petit peu plus court. Donc, c'est un véhicule qui est un petit peu plus compact, qui vient à la base avec cinq places, mais il y a toujours une petite banquette arrière qui est offerte en option, mais je vous dirais que c'est minuscule là, par rapport aux traverses ou à l'enclave. C'est vraiment pour des très jeunes enfants ou c'est vraiment pour dépanner. Là. On fait pas Montréal-Québec, là, c'est sa troisième banquette. Cela dit, moi, je vous dirais qu'au niveau du look aussi, pour 2020, ben les stylistes ont corrigé la grille à l'avant qui est plus grande, qui est plus grosse. Ils ont retouché les phares, ils ont retouché les feux en arrière aussi. Et à l'intérieur, par contre, je vous dirais, c'est là peut-être que ça évolue trop lentement du côté de GM, de GMC. Je vous dirais le tableau de bord, les plastiques, il y a des plastiques, là, la texture de certains plastiques, la qualité de certains plastiques laisse un petit peu à désirer. Au niveau du design aussi, c'est peut-être un petit peu désuet. Par contre, je vous dirais, ce qui est agréable, moi, c'est l'écran tactile, qui est facile à comprendre, facile à utiliser. Côté des sièges aussi, là, les sièges, ça pourrait être un petit peu plus confortable. Moi, si je pourrais donner un conseil à GM, c'est de regarder du côté de chez Ford et Nissan puis Toyota, là, où les sièges se sont beaucoup améliorés au niveau du confort au cours des dernières années. Par contre, je vous dirais, c'est un véhicule qui est robuste, véhicule assez robuste, véhicule aussi qui est facile d'embarquer puis débarquer. On parle souvent de ça. C'est important parce que quand on ajoute un VUS, c'est parce qu'on veut de l'espace. Puis il y a certains véhicules, des fois, qui sont un petit peu trop profilés, surtout au niveau du pare-brise, trop incliné. C'est difficile d'embarquer puis débarquer du véhicule. Dans ce cas-ci, c'est assez carré, donc c'est facile. Le plancher aussi, Jacques, est assez plat. Quand je dis ça, c'est parce que au niveau du seuil de la portière, là, au niveau de la porte à l'avant, toujours un petit rebord, puis dans ce cas-ci, il est très mince. Donc, les gens qui ont un petit peu de misère, peut-être, qui manquent de souplesse là pour embarquer et débarquer des véhicules, là ça va faciliter la tâche. Côté motorisation, bien, cette année, vous avez un nouveau 4 cylindres 2 litres turbo qui développe 230 chevaux. Par contre, dans l'AT4, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez pas opter pour ce moteur-là. Devait automatiquement opter pour le V6 3.6 litres, 310 chevaux. Moteur qui a fait ses preuves au cours des dernières années. Moteur qui est peut-être pas à l'avant-garde au niveau de la technologie, mais comme je disais, là, c'est un véhicule qui est, un moteur qui est fiable. Et la nouveauté pour 2020, c'est qu'il est maintenant jumelé à une nouvelle boîte automatique à 9 rapports. Donc, ça permet de réduire la consommation de carburant par rapport à l'ancienne boîte à 6 rapports. Et ce qui étonne aussi, Jacques, à l'intérieur, c'est au niveau il n'y a plus de levier de transmission à la console. C'est pas une petite molette non plus qu'on peut ajuster là, au niveau de la console centrale. C'est vraiment des boutons, un peu comme chez Lincoln. C'est des petits boutons qu'on retrouve en bas du système de ventilation puis du système audio. C'est des espèces de petits boutons là pour le reculon. Le D pour avancer, le drive, etc., etc. Donc,
rien de compliqué, quoi.
C'est rien de compliqué, mais c'est un peu désarçonnant au départ. Mais à un moment donné, j'imagine, quand ça fait plusieurs semaines qu'on est au volant, bon, on s'habitue à tout. Ouais.
On s'habitue à tout.
Oui.
Voilà la morale de l'histoire. Et est-ce qu'on s'habitue au prix?
Ben le prix, ben c'est sûr que c'est pas nécessairement donné. Hein. On s'entend qu'on peut. Par contre, le véhicule est offert à traction avant. À traction avant, ça commence à 35 000. Ben, par contre, moi, je vous conseille pas d'acheter un véhicule comme celui-là à traction avant. Habituellement, c'est un très. On achète un véhicule comme celui-là à traction intégrale. Et à ce moment-là, ben le prix va augmenter là, de 2 à 3 000 $. Et la version Donnelly, ben là, ça va frôler les. Ça va dépasser les 50 000 $.
Mm-hmm.
Et dans le cas de la version T4, ben là, vous allez être en bas de 50 000. Et ça, c'est moins les rabais. Ça,
enfin.
C'est sûr. Ouais.
Alors voilà, ben on pourra y revenir. Mais j'avais une petite question, parce que je sais que tu es un expert en pneus d'hiver. Puis aujourd'hui, je me posais la question, demain, ben pas demain, mais après-demain, c'est le mois d'octobre qui arrive. Puis là, à cause de la maudite pandémie, puis tout ça, puis les restrictions, puis les zones rouges, puis les zones oranges, puis tout ça. Penses-tu qu'on devrait prendre un rendez-vous le plus vite possible? Et est-ce que, si on installe nos pneus d'hiver au mois d'octobre, est-ce que c'est dommageable pour les pneus? Parce que normalement, au mois d'octobre, il n'y a pas beaucoup de neige. Autrement dit, c'est une bonne idée de prendre rapidement un rendez-vous?
Ben c'est sûr que je ne suis pas un devin, mais à cause de la situation actuelle, je vous dirais effectivement, c'est temps de prendre des rendez-vous le plus vite possible. Surtout si vous faites peu de kilométrage, parce qu'au niveau de l'usure des pneus, je te dirais qu'une journée comme aujourd'hui, c'est sûr que c'est chaud. Hein?
C'est pas l'idéal pour les pneus d'hiver.
C'est effectivement. Par contre, comme on disait en début d'émission, la plupart des gens maintenant circulent beaucoup moins qu'avant.
Mm-hmm.
Donc, vous allez préserver l'état de vos pneus, puis vous allez être prête, parce qu'il faut pas oublier, là, c'est le 1er décembre. Il y a peut-être encore du monde qui pense que c'est le 15 décembre. C'est le 1er décembre pour l'installation obligatoire des pneus d'hiver au Québec. Donc, c'est dans 2 mois.
Alors, c'est 2 semaines plus tôt cette année?
Ben, ça a commencé l'an dernier.
Ah, d'accord.
Mais cela dit, vous avez encore 2 mois. Donc, vous pouvez attendre, mais... Comme je vous dis, plus vite, ça va être installé.
Ouais, mais tu sais, moi, j'ai attendu hein, pour faire installer mes pneus d'été, puis, hey boy, j'ai eu de la misère à me trouver. On était en pleine pandémie aussi.
Pandémie,
ouais. Ben oui, mais c'est ça. Puis, réussi à me trouver un rendez-vous, même pas chez mon concessionnaire.
C'est un bon ami qui t'a aidé, je pense.
Je parlerai pas de mon concessionnaire. Eux autres, ils dorment au gaz, c'est pas drôle.
Ah, ça, là, c'est la... Qui t'a aidé à trouver un garage.
Ça, c'est le garage le plus décevant que j'ai jamais eu de ma vie. Ah, là, comme ça. Mais je donnerai pas de nom.
Non, c'est correct.